Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver avec notre Papa du ciel pour écouter sa parole dans la suite de notre série Béréen l'explorateur. Voilà. La série qui est consacrée à l'étude de la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, pour nous aider à avoir une idée générale de ce qui est contenu dans la parole, mais nous aider également à prendre la parole comme une nourriture dont on a besoin quotidiennement. Et aujourd'hui, nous allons analyser les psaumes 141 jusqu'au psaume 144. Donc nous allons lire le psaume 141.
Psaume 141. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers. Et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre. Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que je tourne mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps.
Voilà, gloire à Dieu, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Donc ce psaume nous appelle au calme face aux persécutions, face aux pièges de l'ennemi, puisque la conclusion c'est que les méchants tombent dans leur filet. Donc en quelque sorte, ce psaume nous dit que les méchants, lorsqu'ils nous attaquent, le but profond, c'est de nous faire tomber nous-mêmes. Le but apparent, c'est de nous faire du mal. Mais ce psaume insiste sur notre réaction. Vous voyez, c'est écrit, verset 3, pardon. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes attaqués, nous avons tendance à mal parler. Nous avons tendance à réagir mal, verbalement. Et c'est ça le vrai piège. C'est ça le vrai problème que nous souffrions, c'est secondaire. Le vrai problème, c'est rester calme, comme il est écrit dans Romains 12, être vainqueur du mal par le bien. C'est ça que nous devons respecter, parce que sinon, ils auraient réussi dans le but profond du mal, qui est de nous faire pécher. Le but réel de Satan, ce n'est pas de nous tuer, ce n'est pas de nous emprisonner, de nous torturer. Ce n'est pas ça son plus grand plaisir. Son plus grand plaisir, c'est que nous renions Dieu par notre comportement, que nous soyons semblables à lui plutôt qu'à Dieu par notre comportement. Et donc, il va y aller de sa persécution, de ces injures, de ces critiques, pour nous mettre mal à l'aise et nous pousser à mal réagir. Et quand on réagit mal, on est finalement tombé dans le vrai piège. Voilà, le vrai piège, c'est de nous pousser à pécher. Et donc, ce psaume nous exhorte à garder le calme face aux méchants. Le calme face à la méchanceté, ne pas tomber dans le piège. Verset 4, « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. » Voilà. « Ne m'entraîne pas à des actions coupables. » Donc, on est tenté de répondre au mal par le mal. C'est la réalité. Alors, c'est un appel à résister au pic de ton mari, au pic de ta femme, au pic des membres de la famille, au pic des gens au boulot. Donc, résister à toutes ces petites méchancetés qui nous environnent, qui nous poussent à réagir aussi méchamment. Il faut résister en répondant au mal par le bien. C'est l'appel de ce psaume. Seigneur, garde-moi de mal réagir. Voilà le résumé de ce psaume. Et au verset 5, il est dit ceci, « Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, un vrai chrétien devrait se réjouir si un autre vrai chrétien lui fait des reproches. Au contraire, c'est ce que nous devrions souhaiter, que les vrais serviteurs nous disent la vérité. Aujourd'hui, les gens choisissent, comme c'est écrit dans 2 Timothée, ils choisissent des docteurs, ceux qui vont leur dire des choses agréables. Nous allons lire ça dans 2 Timothée 4, je crois. 2 Timothée 4. Voilà, les gens aujourd'hui ne suivent pas ce que nous sommes en train de lire dans ce psaume. Ils préfèrent quelqu'un qui leur dise ce qui leur plaît. Voilà, et malheureusement, ça mène à la perdition éternelle. Verset 3, à partir du verset 3.
2 Timothée 4, verset 3.
Bon, lisons tout à partir du premier verset, c'est pas grave.
Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Voilà la réalité. On nous dit que dans le temps de la fin, voilà, les gens vont se choisir des docteurs, des faux docteurs, qui vont leur dire des choses agréables. Ils ne vont pas aimer les vrais serviteurs de Dieu. Et ce psaume nous dit le contraire. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'on te corrige par un chrétien, c'est une faveur. Pourquoi, bien-aimé? Parce que les gens ont l'habitude de flatter. Et quand on te flatte, on te met dans le puits, on te met dans le trou. Et on devrait bien réagir face aux reproches. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Normalement, les vrais serviteurs sont un moyen que Dieu met en place devant nous pour nous aider à connaître notre état spirituel. Ils vont te dire des choses qui vont sembler blessantes, qui vont sembler te diminuer, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu te ressaisisses, c'est pour que tu fasses appel à la grâce divine, à la puissance divine qui transforme. Et pourquoi il en parle? Parce que quand on se plaint souvent, les méchants nous attaquent, tout ça, on a tendance parfois à mélanger aussi les reproches des justes et mettre ça dans le même sac. On peut vivre une période où on est persécuté par des méchants, et dès qu'aussi quelqu'un de vrai vient nous dire quelque chose, on met ça dans le même sac. Alors, lui dit non, je veux bien faire la différence entre la persécution des méchants, les mauvaises paroles des méchants et les reproches des justes, les réprimandes des justes. Il faut quand même faire la différence, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des gens maintenant qui mélangent tout. Du coup, même quand on leur dit la vérité, ça devient une attaque. Non, tout n'est pas attaque. Il faut qu'on fasse la différence entre le juste et le méchant. Et en tant que chrétien, le moyen de faire cette différence, c'est quand même d'analyser ce qu'on nous dit. Si ce qu'on nous dit est vrai, si ce qu'on nous dit se trouve dans la parole, même parfois que ça vienne du méchant, prenons ça comme si c'était un juste qui nous parlait. Voilà. Et davantage quand ça vient d'un juste. On ne doit pas s'en plaindre, faire comme si on était attaqué à tout va, ou tous azimuts. Nous devons faire la part des choses. C'est ce qu'il fait au verset 5. Il dit que le juste me frappe, c'est une faveur, qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. J'accepte ça, être humble pour faire face aux corrections des justes, aux appréciations des justes qui peuvent nous être défavorables. Le juste peut te dire, mais frère, tu as bien parlé, tu as bien prêché, mais je pense qu'à un moment donné, tu devrais t'arrêter, tu n'as fait que te répéter après. Où est le mal? Même si ça paraît blessant, mais tu te dis, je ferai attention la fois prochaine. Donc lui dit, ma tête ne se détournera pas. Il y a des gens, dès que le reproche devient blessant, ils bouchent les oreilles. Ils sont là, mais ils ne sont plus là. Ce n'est pas bon. Faisons face aux reproches, faisons face aux corrections, qu'elles soient blessantes ou pas. Du moment que c'est de la vérité, du moment que c'est pour notre bien, prenons le conseil, ne détournons pas la tête, acceptons, laissons-nous tremper par la belle pluie de reproches qui nettoie. Voilà, ne couvrons pas, ne mettons pas un parapluie à cela. Voilà, tant que c'est quelque chose qui est censé nous émanciper, nous amener plus haut avec Dieu, prenons ça, même si de prime abord, ça semble nous blesser. Donc, il a fait quand même la part des choses. Après, il dit, dans tous les cas, moi, c'est la prière, mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Pour tout ce qui est méchant, mon recours, c'est la prière, donc je vais prier. Donc si parfois un méchant me fait un vrai reproche, mais dans un esprit de destruction, moi je vais retenir le reproche. Et concernant la méchanceté du ton ou des intentions, je vais me recommander à Dieu. Que Dieu lui-même s'occupe de tout. Faire quand même la part des choses, bien-aimés, c'est pas parce que nous traversons des temps de persécution où les gens nous critiquent à gauche, à droite, qu'on doit considérer que toute critique, tout reproche, et ça vient du négatif, ça a pour but notre destruction. Donc faisons attention à cela. Et même quand le méchant aussi peut nous dire quelque chose de vrai, même avec un ton blessant, avec une intention malveillante, prenons le reproche puisqu'il est vrai et ne nous détournons pas de ça. Et concernant la méchanceté qui sous-tend tout cela, laissons ça entre les mains de Dieu dans la prière. Que leur juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. Voilà, c'est auprès de toi que je cherche un refuge. Voilà, il ne faut jamais chercher à paraître bon, juste. Il faut se recommander à Dieu toujours. C'est vraiment, bien aimé, ça, c'est vraiment un conseil très important. Cherchons à ce que toujours Dieu nous porte. C'est vrai que quand on nous critique, c'est nous qu'on critique. On critique les gens qui parlent, ne semblent pas s'attaquer à Dieu. Mais nous, souvenons-nous, en ce qui nous concerne, que c'est Dieu qui nous porte. Ne cherchons pas à prouver qu'on est bon. Ne cherchons pas à prouver qu'on est juste. Disons, Seigneur, tu as entendu. Ben, ce qui est vrai dans tout, de tout ce qu'ils ont dit, ben, Seigneur, corrige cela en moi. Et que tout ce qui procède de la méchanceté, Seigneur, couvre-moi, protège-moi de tout cela. C'est vers toi, Éternel, que se tournent mes yeux. Amène-moi à faire ta volonté. Verset 9, très beau verset. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Et la suite, c'est dans 10. Que les méchants tombent dans leur propre filet et que j'échappe en même temps. Voilà, donc c'est, s'il y a des intentions mauvaises dans ces reproches, dans ces persécutions, que les gens, puisque comme on a dit au début, le but final c'est quoi? C'est que nous on tombe dans un filet, que nous on pêche, qu'on fasse le mal, mais que les méchants eux-mêmes tombent dans ce filet-là et que nous, on s'échappe en même temps. Gloire à Dieu. Oui, question.
Dans ce verset, que les juges soient précipités le long des rochers et puis que les méchants tombent dans leur filet, on dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. On voit que, que David, est-ce qu'on dirait que c'est une malédiction? Parce que dans le Nouveau Testament, on dit qu'on ne maudisse pas, bénissez vos ennemis. Donc, quand on a des pensées, lui, il les dit tout haut, OK, ses pensées. Oui, oui. Et nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, tu sais...
Oui, même dans le Nouveau Testament, Dieu nous informe quand même, comme le frère Paul a dit, il prend les sages à leur propre ruse. Donc c'est que les méchants tombent dans leur propre filet. Donc c'est que ça reste quand même une parole divine.
OK. Et que les juges soient écrasés, soient précipités le long des rochers...
Mais nous, on ne peut pas faire cette prière-là.
OK.
Voilà. Nous reprenons ce que le Seigneur a dit. Voilà, peut-être tu n'as pas fini, je te laisse parler. Non, voilà. Nous reprenons ce que le Seigneur a dit concernant les choses du temps de l'Ancien Testament. Il avait dit que Moïse a permis ces choses-là parce que votre cœur était encore dur. Donc les David, malgré qu'ils avaient l'Esprit de Dieu qui les guidait, ils n'avaient pas les notions que nous avons d'amour, de bonté totale et universelle par Jésus-Christ. Voilà. Et ils avaient une conception de justice qu'eux-mêmes, ils vivaient à travers la loi. Donc, d'accord, je crois que c'est dans cet esprit-là, où de œil pour œil, dent pour dent, qu'ils sont aussi fait certaines paroles.
D'accord. Et depuis la grâce...
Aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire que leur juge tombe de précipice, ainsi de suite. On va dire toujours, le Seigneur, c'est toi qui prends les sages à leur propre ruse. Mais on est aussi au courant que, même si nous, on ne maudit pas, ça se passera de cette manière-là, puisque l'apôtre dit dans Romains 12, c'est quand on répond au mal par le bien, on amasse des charbons ardents sur les gens qui font le mal. Donc, que l'on maudisse ou pas, il y a des règles spirituelles qui font que quand on s'attaque à un juste, ben on sera pris dans notre propre piège. Et que si le juste répond par l'amour et le bien, ben il amasse des charbons ardents sur nous.
Et au prime abord, à l'intérieur de nous, on peut avoir une mauvaise pensée, mais on l'exprimera pas et on va soit se retenir ou soit demander à Dieu qui change nos pensées. Mais comme on peut avoir une mauvaise pensée peut-être sur le moment et tout de suite te dire, Seigneur, aide-moi.
C'est ça l'objet de ce psaume. Il dit au verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche, okay, veille sur la peau de mes lèvres. Parce que quand on fait face à l'injustice, à la méchanceté, on a tendance à vouloir à souhaiter le mal de l'autre pour que justice soit établie. Mais bon, non, nous, on est appelés à attendre le jugement dernier. Voilà. C'est ça, nous, les gens de la Nouvelle Alliance, la justice que nous attendons, c'est celle qui s'accomplira au jugement dernier. Nous ne devons pas rechercher à ce que le pécheur soit frappé tout de suite. On doit chercher le salut du pécheur.
Voilà. Et on n'a pas à se repentir d'avoir tout de suite, sur l'instant, avoir eu une mauvaise pensée.
C'est une tentation. On n'a pas à se repentir d'une tentation.
Et on se rectifie, donc, et puis,
on
voilà.
On dit seulement, change l'état de mon cœur, okay. Mais c'est encore au stade de la tentation, une envie de maudire. On est au stade de la tentation. Maintenant, quand ça dépasse cette envie-là de maudire, ça devient vraiment un vrai souhait de malheur pour l'autre, même si ce n'est pas exprimé, c'est dans le cœur, on le saura aussi, et on s'en repentira, on demandera pardon.
Okay.
Oui.
Oui, je veux juste aller dans ce sens, dans le, je crois, Hébreux, c'est Hébreux 12, 14, où l'apôtre Paul dit « Cherchez la paix avec tous ». Je suis confronté avec, disons que par rapport à un problème où je sais qu'une personne a fait quelque chose intentionnellement, mais en mal, contre moi qui suis chrétien. Je vois clairement que l'intention, elle est, c'est dans le but de me faire du mal. Je l'ai constaté. Quelle est la posture que je dois adopter vis-à-vis de cette personne, dans le sens où je dois chercher la paix, où je vais dire à la personne ce que tu as fait est mal, mais je ne prends plus en considération, je pardonne et je cherche toujours à prendre de ses nouvelles, vu que c'est une personne qui fait partie de la famille, ou soit je me dis c'est le Seigneur qui l'a dévoilé, qui a dévoilé ses intentions, et je préfère rester, choisir cette posture où je dis ben, comme le Seigneur l'a dévoilé, je reste dans mon coin. J'évite tout contact avec cette personne en disant que, bon, comme le Seigneur l'a dévoilé, elle reste dans son coin. Moi, je fais ma vie avec mes frères et sœurs en Christ. Quelle est la posture pour le chrétien? Puisque j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent cet argument où en disant que, bon, le Seigneur l'a dévoilé, ben, elle reste dans son coin. Moi, je reste dans mon coin et puis je fais ma vie avec les autres.
Non, moi, le conseil que je donne, c'est le départ. Le départ, c'est quoi? On nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous bénissent, pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà. Résolvons d'abord ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas donner un conseil à quelqu'un sur les branches, alors qu'on n'a pas encore parlé des racines. La racine, c'est avoir un bon cœur pour cette personne-là. Donc, l'aimer, prier pour elle, avoir de bonnes intentions. Tant que ça s'est réglé, le Saint-Esprit peut maintenant nous conduire pour la suite, soit avoir de l'entrain pour quand même contacter la personne ou rester aussi à distance. Ça, mais au moins, l'essentiel qui sont les racines, c'est-à-dire aimer, prier, du moment qu'on est dans un état chrétien véritable, dans un état de Dieu, ben là, c'est déjà bien. Maintenant, le reste, le Saint-Esprit nous pourra nous conduire, puisque les deux cas sont possibles. Il y a des cas où le Seigneur nous demande de nous retirer, il y a des cas où le Seigneur nous demande d'aller toujours. Voilà. Donc, comme il y a ces deux cas, soyons dans une disposition de cœur qui permette au Seigneur après de nous conduire.
J'ai compris ce que vous avez dit, mais j'ai du mal à concevoir un amour où on dit « j'aime une personne, mais cette personne... » Pour autant, je prie pour cette personne, mais je ne conçois pas avoir une relation fraternelle avec cette personne, puisque l'amour en soi, dans ma tête, comme l'apôtre Paul, c'est Jacques qui dit ça, si tu n'arrives pas à aimer le frère qui est à côté de toi, comment peux-tu dire que tu aimes
Dieu? On vient de dire qu'il faut aimer, on va dire que la racine... C'est aimer, mais aimer ne veut pas dire forcément manger ensemble.
Mais prendre des nouvelles de la personne, l'appeler.
Mais c'est ce qu'on est en train de dire, on dit ceci. Régler d'abord le problème d'amour.
Dans mon cœur.
Voilà. S'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas de blocage dans la bénédiction de la personne, si on ne sent plus d'obstacles, donc c'est ça qu'il faut régler d'abord. C'est le cœur qui est le plus important. Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Si c'est réglé, c'est bien dans le cœur, le Saint-Esprit nous conduira. Donc, il n'empêchera pas l'entrée ainsi. Il doit se faire. Donc, moi, je ne pense pas que si on sait qu'il y a des pasteurs qui sont satanistes et empoisonneurs, Dieu va nous dire, va quand même aller manger avec eux. Mais non, c'est pas ça. Pourtant, on les aime quand même, mais on les laisse dans leur coin. On n'est pas obligé d'avoir la même relation avec tout le monde. Ce qu'on est obligé d'avoir, c'est un cœur d'amour pour tous. Maintenant, quand c'est réglé, on a un cœur d'amour, de paix pour tout le monde, le Saint-Esprit après nous conduira pour la suite. Puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Au fait, s'il veut nous dire « va vers eux », on ira puisqu'on a un bon cœur. S'il nous dit de rester calme, obéissons aussi parce qu'il est dit quand même que « soyez prudents comme des serpents ». Voilà. Donc, on ne nous a pas dit qu'on devait être large dans tout. Non, on doit être large dans le cœur. Mais dans les actes, il faut qu'on soit aussi prudent comme des serpents, doux comme des colombes, prudent comme des serpents. Voilà, c'est pourquoi on doit... Parce qu'il y a des gens qui se sont obligés quand même, malgré le fait que le Saint-Esprit les avertissait, ah, mais non, c'est quand même mon frère, c'est quand même un pasteur, c'est quand même un chrétien. Mais non, attention, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on nous appelle à aimer tout le monde qu'on nous appelle à communier avec tout le monde. Ce n'est pas dit. D'ailleurs, c'est écrit « Soyez prudents comme des serpents ». Mais du moment que tu es au courant que la personne fricote avec Satan, fricote avec les mauvaises choses, tu ne peux pas te forcer à dire « Mais non, mais puisqu'il cite le nom de Jésus, mais il cite le nom de Jésus, mais c'est un pasteur qui a touché à la magie. Il cite le nom de Jésus, mais on voit bien ce qu'il fait. Nous tous, on est passés par là où tu es dans une église où il y a des mauvaises prédications, des mauvaises allusions bibliques, mais tu te couvres du fait qu'il y a une sorte de puissance. Et tu te dis, mais si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas cette puissance, il n'y aurait pas le nombre qui augmenterait. Il n'y aurait pas... Parfois, quand on chante, tu sens comme une sorte de bien-être dans cette église-là aussi. Mais le tissu est mauvais. Ce que le pasteur fait... C'est pas bon, c'est pas biblique. Et on se dit, mais non, c'est pas grave, il y a quand même Dieu. Attention, ce qu'on pense là être Dieu peut être Satan. Il est écrit, Satan se déguise en ange de lumière. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Quand on sait que des gens fricotent avec l'ennemi, on doit faire attention. On doit écouter le Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit, malgré tout, je t'ai envoyé quand même vers ta famille, vers ce... Ah, ça, c'est le Saint-Esprit. Mais moi, en tant que pasteur, je ne peux pas conseiller quelqu'un, dire à quelqu'un, là-bas, c'est flou, va quand même par amour. Je ne peux pas. Moi, je suis qu'un homme. Seul le Saint-Esprit peut dire, va quand même, je serai avec toi, puisque j'ai une mission pour toi. Nous, en tant qu'humains, on ne peut pas dire « va quand même ». Non, on ne peut pas, puisqu'on sait bien que l'endroit est mauvais. Mais on garde un cœur d'amour, un cœur de paix. Donc, il faut être dans cet esprit-là. Voilà. Oui. Tu n'as pas allumé le micro.
Il y a un verset, enfin la deuxième phrase du verset 7 que je ne comprends pas. Le verset 7, c'est « comme quand on laboure et qu'on fend la terre », qui est la suite du 6. Et après, ça dit « ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts ». Ça, cette phrase, je ne la comprends pas. « Ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts ».
Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas pareil comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés. C'est un spectacle de destruction. Donc, quand on laboure, on fend la terre, on détruit. Donc, je crois que c'est comme le même spectacle de destruction qui montre la mort, quoi, qui montre la destruction.
Oui, mais pourquoi nos os, ça parle des justes.
Ah oui, mais oui, c'est la souffrance des justes face à... Ça peut composer. Quand les justes subissent la persécution, c'est comme s'ils sont brisés. Leurs os sont répandus. C'est dans ce sens-là. C'est la sensation qu'on a face à des persécuteurs qui paraissent très forts. On a une sensation de mort, de destruction.
Ouais, alors donc, la phrase, la première phrase du verset 7, je ne l'ai pas comprise non plus. Moi, je pensais que le verset 6, c'est que leur juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Donc, je pensais que c'était comme quand on laboure et qu'on fend la terre.
Ah non, il y a un point.
Oui, mais je pensais que c'est « et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables ». Je pensais que c'était la suite, comme quand on laboure et qu'on fend la terre. Donc si on fend la terre, ça mes paroles pénètrent.
Ah non. C'est,
ça reprend au-dessus, en fait. Ça pas reprend la méchanceté.
Non, c'est comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont disparus. Ça reprend la méchanceté, c'est-à-dire ce que nous font subir les méchants, c'est comme si on était cassé, brisé et nos os répandus.
Oui, en fait, verset 7, ça reprend tout ce qui concerne l'idée
la méchanceté. Voilà, d'accord. Des gens contre les justes. Voilà. Nous passons au psaume 142.
Psaume 142, cantique de David. Lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien.
Amen, amen. Je loue toujours cette certitude. Qu'à David, quand il clôture les psaumes avec une note de victoire. À chaque fois, il y a une note de victoire. Dieu va faire. Au fait, ça rejoint le psaume 130. J'ai confiance au Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou pas, le matin finira par arriver. J'aimerais bien qu'une telle détermination soit communiquée à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, qu'on le veuille ou pas, la lumière viendra. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation de l'Église, aujourd'hui nous traversons des situations terribles pour l'Église. Vous savez, le Maroc était fermé à l'Évangile, de sorte qu'il n'y avait que 4 mouvements, entre guillemets, chrétiens reconnus au Maroc, et tous les autres chrétiens qui pouvaient venir au Maroc devaient être en quelque sorte dans ces mouvements-là pour être laissés tranquilles. Et aujourd'hui que le Maroc commence à reconnaître même des associations entre guillemets chrétiennes au Maroc, qu'est-ce qui en profite le premier? C'est les faux serviteurs. Les fausses églises de prospérité, d'argent, de spectacles, de bêtises, ce sont ces gens-là qui sont les premiers, les sectes chrétiennes branhamistes. Ce sont eux les premiers qui sont là. On se dit, mais Seigneur, où sont les justes? L'état est difficile, mais persévérons, la lumière se manifestera toujours. Il faut qu'on ait toujours cette note-là d'espérance, de victoire. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Là, ce psaume nous appelle à crier à l'Éternel comme quelqu'un qui a perdu théoriquement la bataille. Pas pratiquement la bataille, mais théoriquement la bataille. Tu te sens faible face à tes ennemis. Parfois, l'orgueil humain nous pousse à nous considérer toujours forts en tout temps et à forcer parfois, et sans que ça vienne de la puissance de Dieu en nous, de la présence divine, Mais c'est par la chair qu'on refuse de s'avouer vaincu. Non, il faut à certains moments dire, reconnaître quand on se sent faible, reconnaître ça. Dire, Seigneur, je le sens plus fort que moi. Alors, je crie à toi parce que quelqu'un d'autre ne comprendrait pas mon état. Toi seul peux me sauver. Je crie à toi. N'hésitons pas à crier à l'Éternel en reconnaissant que l'environnement, le défi qui nous est imposé semble plus fort que nous. Voilà, n'hésitons pas à cela parce que nous sommes appelés à l'humilité et c'est ce genre de prière que, dont était spécialiste David, il pouvait s'humilier pour crier à l'Éternel. Souvent, nous recherchons des ressources personnelles par des amitiés, par des connexions, par des moyens personnels. Donc, il faut quand on manque de force, quand on se sent faible, l'avouer, dire « Je me sens plus faible que mes ennemis, mais je compte sur toi et je sais que tu me feras du bien, tu me libéreras. » Amen. N'ayons pas honte de crier à l'Éternel. D'ailleurs, le psaume 143, ça sera encore plus fort, ça sera encore une grande supplication. Et c'est ça la prière de supplication. Mais je préfère dire pour le psaume 142, « Crier à l'Éternel ». N'hésitons pas à crier, à dire je n'en peux plus. Aide-moi. C'est ce qu'il dit. Donc, il paraît que ce psaume a été fait quand il était dans la caverne d'Adoulam, hein, le masquil de David, quand il était dans la caverne d'Adoulam et qu'il était poursuivi par Saül. Hein, il crie, il dit que mes ennemis sont plus forts que moi, mais je sais que la victoire m'appartient. N'oublions pas que le Seigneur avait déjà oint David comme roi d'Israël. Il savait que ça allait finir ainsi. Voilà. De même, nous aussi, nous avons été oints. Hein. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1. Nous avons été oints comme prince, princesse. Nous savons la fin de toutes choses. Mais ça demande la foi. Donc, on crie, mais on se souvient qu'il y a une fin qui est victorieuse pour nous. Et Il y a un verset. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Voilà. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Voilà. Il y a des moments où les gens, même qui nous entourent, ne vont pas connaître notre détresse. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les gens cherchent plus le soutien humain que le soutien de Dieu. Ils veulent à tout prix que l'entourage leur soit favorable. Il faut qu'on accepte qu'il y a des moments où l'entourage ne pourra pas saisir l'épreuve par laquelle Dieu nous fait passer. Il faut qu'on soit indulgent vis-à-vis de notre entourage. L'épreuve d'une personne, elle est à cette personne. Donc, nous ne sommes pas des Dieu pour sentir exactement ce que tu sens. D'où on doit avoir pour habitude de recourir à l'Éternel. Parce que si on veut à tout prix le soutien de l'entourage, on est en train de les charger d'une responsabilité dont ils sont incapables. Parce qu'ils peuvent pas, ils sont pas Dieu pour savoir exactement. C'est vrai que parfois ils peuvent être distraits. Bon, ça c'est Dieu qui verra. Mais nous, puisqu'on a le soutien de l'Éternel, crions à Dieu, crions à l'Éternel. Ne chargeons pas l'entourage en disant « Vous ne m'avez pas soutenu, vous ne m'avez pas aidé. » Non, disons à Dieu, les autres ne voient pas ce que je vis, mais toi tu vois. Alors viens à mon secours. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Racontons à Dieu notre détresse. Ne chargeons pas notre entourage. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Nous passons au psaume 143.
Psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur.
Amen, amen. Là, c'est une fois encore une prière de supplication. La supplication, c'est quoi? C'est le fait de venir à Dieu comme un homme faible et demander son aide. Venir à Dieu comme un homme perdu, un homme qui n'y arrive plus. Voilà, on supplie. « Oh Seigneur, aide-moi. » Reconnaissons, bien-aimés, en nous, il y a souvent un orgueil que parfois on veut associer à Dieu en disant « Je suis un combattant. » Mais non, parfois c'est notre force physique qui fait ça. Voilà. Et il y aura des moments où l'épreuve nous dépassera. Et tu cherches à faire « Je suis combattant », ça ne marche pas. Et il faut supplier. On dit « Ah Seigneur, je suis dépassé. » Délivre-moi de mes ennemis. C'est Dieu qui permet ça afin de nous purger de notre orgueil qui est nocif et qui produira sa nuisance le jour où il nous donnera une gloire, une force pour faire des exploits. C'est là que cet orgueil va devenir un ogre qui va nous manger. Alors, il se sert des temps d'épreuve pour nous vider de ça. Et ça passe par des prières de supplication. Parce qu'il y aura des moments où on n'aura même pas peur. Même face à 10 millions de personnes, on va leur dire, je triomphe de vous. Parce qu'on est loin. Comme David face à Goliath. Ce n'est pas sa force. C'est l'onction de Dieu. Il y aura des moments. Ça sera comme ça. Mais acceptons aussi qu'il y ait des moments où il y a comme un vide en nous mais qui nous pousse à ne pas nous placer devant les ennemis pour dire « Au nom de Jésus !» Non. Acceptons qu'il y ait des moments où on dit « Seigneur, je suis faible, je suis fatigué, j'ai besoin de ton aide. Délivre-moi. » Voilà, c'est ça le terme qui est ici. Délivre-moi. Donc, on est en détresse. Il y a des moments de détresse dans la vie chrétienne. Et j'aime le frère Paul, il en a parlé dans 2 Corinthiens 1, je crois, 8 à 9. On va lire 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Il dit qu'on était tellement, tellement dépassés qu'on n'espérait même plus être sauvés. Voilà. Il faut être honnête. Ils n'avaient même plus la foi qu'ils allaient être délivrés. Mais il s'est dit, ben, qu'on meure, au moins on ressuscitera. Il y a des moments où on n'a même plus la foi qu'on va être délivré. La foi qu'on devrait avoir, c'est Dieu qui purge tout ce qui peut être force personnelle dans notre marche afin de mettre sa force à lui. Voilà. Acceptons cette faiblesse-là et crions à Dieu comme le fait notre frère David avec cette prière de supplication, psaume 143. Oui, 2 Corinthiens 1, 8 à 9.
Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts.
Voilà. Donc, c'était une telle affliction qu'ils n'avaient pas le courage du guerrier chrétien à dire « Ah, on tiendra, on gagne ». Il n'y a pas un moment donné, il n'y a même pas ce courage-là. C'est là qu'on passe par la prière de supplication. « Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je me remets entre tes mains. » Voilà, ça paraît, c'est la prière du faible, mais c'est la prière de l'homme en détresse. Ça existe dans les prières chrétiennes. C'est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des actions de grâce, des prières, des supplications aussi, voilà, des actions de grâce. » Donc, il y a toutes sortes de prières et la supplication en fait partie. Donc, on ne doit pas penser qu'on n'aura qu'à faire des louanges et des prières de victoire. Il y aura des moments de prières de supplication. Acceptons cela pour nous purifier de l'orgueil qui nous enveloppe facilement. Voilà, nous continuons. Psaume 144, l'Éternel qui se manifeste en guerrier.
Psaume 144 de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux. De la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère.
Voilà, on s'arrête là pour le moment. On voit dans la première partie le roi David dire au verset 2, « Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. » Vous voyez, même en ce qui concerne sa gouvernance du peuple, David reconnaît que si les gens lui obéissent, c'est parce que c'est Dieu qui met la pression de son autorité sur les gens. Bien-aimé, quand tu es responsable, ne cherche pas à jouer au dictateur. Ne cherche pas à faire peur aux gens pour les dominer. Hein, c'est écrit même dans le Nouveau Testament. En tant qu'ancien, l'apôtre Pierre dit, il ne faut pas chercher à dominer sur le peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va imposer ton autorité sur les autres. L'autorité, ça ne se crie pas sur les toits. C'est Dieu lui-même qui s'impose. S'il t'a établi pasteur, il t'a établi dirigeant d'une équipe, il t'a établi dans un rôle de parent, il va aussi imposer ton autorité. Toi, fais ce qui est droit devant Dieu. toi-même respectes Dieu, tu verras que les autres te respecteront. Et tu n'auras pas besoin de faire peur, de manipuler pour asseoir ton autorité. Il suffit que toi-même tu sois correct devant le Seigneur. Il y a des gens qui ont toujours souci de voir si les gens les suivent, s'ils obéissent, s'ils sont contents, s'ils sont d'accord. C'est pas bon tout ça. Il faut faire bien devant Dieu et c'est Dieu qui fera asseoir ton autorité dans les cœurs des humains. Éternel, voilà. Et David dit, mais l'homme n'est rien. L'homme est semblable à un souffle. Verset 4, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Donc, Dieu sait comment gérer l'homme. Alors, nous confions-nous dans le Seigneur et il pourra nous délivrer. Et là, on parle maintenant de Dieu comme un guerrier. Ah, j'aime ça, quoi. Dieu se bat, il combat comme un guerrier. On dit, lance tes flèches, fais briller les éclairs, mets-les en déroute. Le Seigneur agit aussi comme un guerrier. On peut lui faire confiance. Je voudrais dire, peut-être que j'ai oublié de le dire au début, ceci est un enregistrement, du coup, les questions Internet, on pourrait y répondre que le mardi qui suivra, essayer de renvoyer ça, soit le mardi qui suivra, ou bien renvoyer ça en commentaire, comme ça on va les rassembler pour donner les réponses le mardi qui suivra. Voilà. Et là, le Seigneur maintenant est présenté comme le guerrier. Il combat. Bien-aimé, il n'y a pas que nous qui souffrons des flèches du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres aussi souffre des flèches qui viennent du camp de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, question.
Pasteur, la question que je voulais poser, c'était c'est quoi la différence entre le combat de Dieu et le combat du chrétien? C'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que le chrétien doit être... en fait, il doit être faible, c'est ça?
Non, pas il doit être.
Il doit s'appuyer.
Il arrive des moments où il ne sent pas de force en lui. En ce moment-là, il fait des prières, des supplications.
D'accord.
Et quand il sent la force en lui, il prend autorité. Voilà. Donc, il n'y a pas que des moments d'autorité, de prise d'autorité, il y a des moments de supplication aussi.
D'accord. En fait, moi, je demandais la différence entre le combat du Seigneur et le combat du chrétien. C'est vrai que tu dis que le chrétien, il prend autorité à partir du moment où, en fait, il est faible. Donc, il s'attend au Seigneur, non? C'est ça. Mais c'est quoi la différence?
Non, à tout moment, il s'attend au Seigneur. Mais il y a des moments... Donc, en s'attendant au Seigneur, il y a plusieurs façons. Quand on a comme une révélation, comme David face à Goliath, il prend autorité et l'attaque. Mais le même David, là, il est poursuivi par Saül. Mais il n'a pas pris autorité pour dire « Je vais me battre contre Saül ». Il a compris que là, ce n'est pas la voix de Dieu. Je m'attends toujours au même Dieu, mais en suppliant qu'il vienne m'aider. Nous continuons.
Verset 8. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donne le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptés qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité. Point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu.
Amen, amen. Le roi David dit, je vais te louer, mon Dieu, au verset 9. Ô Dieu, je chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes le salut au roi. Mais normalement, le roi a une bonne escorte, une bonne garde. Mais David dit, même le roi, le salut sur lequel et le salut dont il bénéficie, ça vient de Dieu. Quelle prise de conscience de la part de David. On a vu ça dans le psaume 33 également. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est Dieu, bien-aimé. Dans Ésaïe 12, c'est encore pire. Dieu est en train de dire, il dit dans Ésaïe, je crois au chapitre 12, il dit, mais même les gens là qui frappent les autres, il dit, vous n'êtes qu'un couteau. En réalité, c'est moi qui vous utilise. Donc même les gens qui paraissent là nous mettre des mesures, confinement, tout ça, ils paraissent tout puissants. Mais Dieu dit, ils sont que des couteaux. C'est Dieu qui finalement les utilise. Ils sont rien. Et là, il s'est dit, David dit, même en tant que roi, c'est toi qui me protèges. C'est pourquoi je te célébrerai. Bien-aimés, soyons reconnaissants, Seigneur, de tout. C'est toi qui donnes le salut au roi, carrément. Carrément, c'est lui qui les protège. Et finalement, David nous parle d'un temps merveilleux à venir. Nous pensons que c'est le royaume de 1000 ans où les fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Les filles sont comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provision. Ça, c'est le temps messianique à venir. Bien-aimés, ça doit être notre espérance à nous tous. Les combats cesseront un jour. Les combats cesseront. Les luttes cesseront. Les épées seront rangées un jour. Un jour, le soleil de justice brillera et tout sera calme. Nos génisses sont fécondes, verset 14, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Voilà, nous allons bénir le Seigneur. Nous demandons, bien-aimés qui suivent, de se joindre à nous dans la prière également par rapport à la fête de la musique qui demande beaucoup de prières pour que le Seigneur soutienne la chorale, soutienne les bien-aimés qui sont en action sur place et touche la ville de Rouen. Et je pense que nous allons mettre ça, nous mettons notre concert en même temps en direct, peut-être après cette étude biblique ou sur Facebook. Mais en tout cas, il y aura une forme de direct. Soyez attentifs à ça s'appelle quoi à la chose qui annonce, aux notifications. Voilà, nous allons prier le Seigneur et pour la fête de la musique et pour ce que nous venons d'écouter, que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous venons prier pour te dire merci pour ces enseignements que le frère David nous donne à travers les psaumes, comme quoi, Seigneur, nous ne sommes rien. Notre protection vient de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien. C'est toi qui nous combles de bonté, d'amour. Nous ne sommes rien, Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons être indulgents envers les mauvais et nous crier à toi pour nous délivrer de leurs mains. Ne pas tomber dans le piège des méchants pour devenir nous-mêmes méchants. Que nous soyons vainqueurs du mal par le bien. Nous prions également, Seigneur, pour ne pas rejeter les temps de prière de supplication. Ne pas croire qu'il faille à chaque fois prendre autorité comme un guerrier, et comprendre qu'il y a des temps où nous serons comme faibles, mais toujours en nous reposant sur toi, en criant à toi, en te suppliant, nous aurons la victoire. La même victoire qu'on a dans les temps où nous sommes forts, c'est la même victoire qu'on aura dans les temps où nous paraissons faibles. Car c'est toi qui agis dans tous les cas, Seigneur. Merci, merci Seigneur d'être notre Dieu, comme c'est écrit dans le psaume 144, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Oh Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir comme Dieu, parce que tu nous as réservé un royaume de paix, de prospérité sans fin. Oh Éternel, nous languissons après ce temps-là. En attendant, Seigneur, garde-nous dans la foi. En attendant, donne-nous la force, Seigneur, de te célébrer en public ce mardi, ce soir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'intercéder pour ceux qui peuvent prier pour que la ville soit touchée et tous ceux qui seront en contact avec nous soient touchés. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse.